Voilà, nous commençons donc cette dernière séance. Par rapport au programme annoncé, nous ne pourrons pas tout faire. Et donc, je vais simplement retenir deux points déjà considérables en eux-mêmes, mais il me paraît très difficile de ne pas en dire un mot dans ce cours. C'est d'abord le problème du droit, la place du droit, et dire quelques mots sur la laïcité, deux sujets qui sont tout à fait brûlant à l'ordre du jour et difficile, donc je ne vais me proposer que quelques éléments de réflexion très incomplets par rapport à tout ce qu'il faudrait dire. Et j'espère que nous aurons quand même un assez bon temps de discussion. Si vous avez eu le courage de relire vos notes, des questions un peu sur l'ensemble du parcours et pas seulement sur les derniers points. Alors, je crois qu'il serait difficile de ne pas dire un mot sur l'importance du droit. Puisque nous sommes dans des démocraties, c'est-à-dire en réalité des états de droit, nous avons vu le lien entre état de droit et de souveraineté, et l'idée de souveraineté, et c'est d'autant plus important que la place du droit, qui est tout à fait capitale dans ces sociétés, est souvent mal considérée par la réflexion philosophique, en morale, et pour la réflexion théologique également en morale. Et il est vrai qu'on a tendance à, dans la réflexion morale, à aller tout de suite aux principes, aux valeurs, au débat démocratique de l'autre côté, quand on parle en termes de politique, et d'oublier la médiation très difficile, en effet, à penser et à honorer, qui est celle du droit. Or, la plupart de nos débats aujourd'hui, dans la plupart des sociétés démocratiques, tournent autour du problème du droit. Et donc, la question de savoir, c'est non seulement comment s'élabore le droit, mais finalement, quelle est la nature du droit? Sur quoi le droit repose-t-il? Et quelle est sa fonction et sa nécessité dans une société? Alors, immense question qui relève de la philosophie du droit, et bien sûr, je ne vais pas traiter de tout ça, mais je vais simplement ouvrir des voies, laissant la place à votre propre investigation, si vous jugez bon de le faire. Alors, je dirais d'abord que si le droit a une place difficile, c'est qu'il a une place médiatrice. Il a une place médiatrice au sens le plus large du terme, entre les hommes, entre les groupes, entre les biens. On pourrait dire qu'il est entre. Il est entre les groupes sociaux, entre les individus, entre les personnes, et c'est d'ailleurs, je crois, une raison à la fois de son importance, puisqu'il régule les relations sociales, et toutes les relations sociales, depuis la famille, donc entre l'homme et la femme, les conjoints, jusque éventuellement les relations internationales, mais le droit social, et ainsi de suite. Donc, il a une place centrale, ce qui rend d'ailleurs très difficile de le penser, mais une place aussi fragile, parce que le droit est toujours sur une crête sur laquelle il est très difficile de se situer. Je dirais, pour faire vite, il faut qu'il donne des normes, c'est-à-dire qu'il aille au-delà des pratiques courantes, il fixe ce qui doit être fait sous peine de sanctions. Il ne faut jamais oublier que derrière le droit, il y a tribunaux, prisons, sanctions. Donc, il fixe ce qui devrait être fait en matière de propriété, sanctions contre le vol, la dégradation des biens, mais garantie aussi de cette propriété. En matière fiscale, c'est encore plus vrai. Donc, il fixe des normes. Mais en même temps, il ne peut pas être totalement déconnecté des mœurs. Il doit plus ou moins refléter les mœurs, et tout tient dans le plus ou moins. Car on voit sans peine que si le droit ne correspondait pas ou ne correspondait que très partiellement à ce que les gens vivent, il serait purement et simplement inapplicable. Or, je n'aurai pas l'occasion de le dire, mais j'insiste là-dessus, un droit qui ne serait pas appliqué ni applicable ne serait pas un droit, c'est un vain mot. On pourrait dire que là-dessus, il y a une différence entre un principe moral, comme, je ne sais pas, ne pas mentir. Bon, nous savons bien que nous mentons tous. Et puis, un droit, les principes moraux sont en effet des idéaux que l'on ne vit que très, très partiellement. Mais le droit exige d'être suivi, et souvent à la lettre. Alors, s'il était tourné, ou si on faisait des lois que personne ne suivrait, évidemment, ce serait une crise du droit, qu'on peut connaître d'ailleurs aussi dans nos sociétés, tout à fait grave. Alors, voilà, je crois, une des fragilités essentielles que je retiens. Le droit doit fixer des normes, et voilà la question, au nom de quoi les fixer, mais il ne peut pas être totalement déconnecté des mœurs. Mais l'inverse est vrai aussi, s'il est simplement le reflet des mœurs, s'il colle totalement à ce que vit une société, dans le couple, dans les rapports sociaux, de travail, etc., il n'est plus normatif. Il n'est plus régulateur des relations entre les hommes. Et donc, il perd sa qualité de droit. Alors, je dirais, là, il y a une espèce de contradiction interne dont il est très difficile de voir comment s'en tirer, si je puis dire, puisqu'il faut que le droit colle, morde à la réalité sociale sur laquelle il a prise, mais en même temps qu'il la régule, c'est-à-dire qu'il soit à distance. Alors, comment trouver la juste relation entre les deux? C'est, je crois, une des raisons pour lesquelles le droit ne peut qu'être évolutif, mais au nom de quoi va-t-il évoluer? C'est certainement une très grande difficulté. Donc, il régule les relations sociales, il les régule au nom de la tradition, des valeurs passées, je vais revenir dans un instant, au nom d'un certain nombre de conceptions qui viennent des traditions philosophiques ou religieuses, par exemple l'idée même de propriété, de propriété privée, ça n'a l'air de rien, mais ça relève de toute une philosophie, et on a bien vu que certaines formes de socialisme communiste s'en prenaient à l'idée de société de propriété privée, parce que on impliquait par là toute une certaine philosophie de l'homme, de la collectivité, etc. Donc, même les règles qui paraissent les plus obvies sont en réalité portées par un héritage de traditions philosophiques ou religieuses, de mœurs, de systèmes sociaux qui sont en place. Bon, et on voit bien la grande difficulté, par exemple dans les problèmes de la famille aujourd'hui, de la relation entre les sexes, puisque d'un côté, tout le monde est sensible à des évolutions, à des attentes sociales fortes, et de l'autre côté, le droit ne peut pas être simplement le reflet de ce qui se passe. Alors comment trouver la juste chemin, juste ligne de crête? C'est un très gros problème que je me contente de borner, de citer. Donc je voudrais montrer dans ce premier point ce que j'appellerais la substantialité éthique du droit. Pour reprendre une expression hegelienne, la substantialité éthique du droit, si on veut employer des termes plus simples, on pourrait dire la portée éthique du droit, le contenu éthique du droit. Et je distinguerai, comme je l'avais déjà fait une fois ou l'autre, sans le systématiser trop, l'éthique de la morale. L'éthique relève des mœurs, des façons de faire dans une société donnée. La morale relève beaucoup plus de principes, plus transcendant, plus abstrait, ne pas mentir, ne pas tuer, ou positivement des principes de solidarité sociale, des principes de justice, bon, qui restent eux-mêmes formels et qui ne vont trouver leur contenu. Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Ben, ça va dépendre évidemment de la situation d'une société, de ses possibilités, de ses habitudes, de la façon qu'elle a de concevoir les relations sociales. Alors, je voudrais montrer que il y a une très grande différence entre la référence morale et la référence légale, mais que le droit a néanmoins une portée éthique. Donc je crois qu'il faut maintenir cette distinction. Le droit a une portée éthique, il n'a pas à se conformer à une morale, chrétienne ou autre, mais il a une substantialité éthique. Alors, il a une substantialité éthique, je dirais, déjà par ce que je viens de dire précédemment. On voit très bien qu'on ne peut pas laisser les mœurs aller à volo, sans aboutir à un certain nombre de violences, et on voit bien qu'il faut les réguler. Mais au nom de quoi les réguler? Et si on les régule, c'est parce qu'on estime qu'il y va des relations sociales dans leur valeur humaine. Alors, c'est la première chose que je voudrais dire, c'est que le droit constitue un rempart éthique contre la violence latente dans tous les rapports sociaux. Alors, nous retrouvons ce que nous avions déjà vu un petit peu à propos de Luther. Si, évidemment, tous les hommes étaient des gens moraux, vivaient d'une spiritualité chrétienne parfaite, vivaient au niveau des béatitudes, il est clair qu'ils n'auraient pas besoin ni de droit, ni de police, ni de prison. Mais comme nous l'avons assez vu, non seulement, c'est pas seulement que les hommes soient méchants, c'est qu'ils sont médiocres. Pour parler comme Machiavel, je le citais la dernière fois. C'est-à-dire qu'ils disent vouloir être d'accord, éventuellement avec le sermon sur la montagne, ou avec les grands principes de l'humanité, des droits de l'homme, et concrètement, ils cherchent leurs intérêts. Et donc le droit a sa raison d'être dans ce fait. Puisque les hommes sont potentiellement violents, ne respectent pas la propriété des autres, ou leur réputation, ou leur conjoint, eh bien le droit essaie de mettre une régulation. Donc il est une tentative d'établir un rempart à une violence toujours possible dans les relations humaines. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est si important. Alors en quoi le fait-il? Ben, je dirais d'abord que le droit a une fonction négative, c'est-à-dire qu'il signifie, et là je prends toute espèce de droit, je prends aussi bien le droit pénal que le droit administratif ou le droit civil, le droit en tant que tel indique dans une société que tout n'est pas possible. C'est-à-dire que tout n'est pas permis dans cette société-là. Le droit pose des prescriptions précises et identifiables, et c'est une des qualités du droit quand il est bon, c'est d'être aussi précis que possible, de façon à éviter les abus, de façon à éviter les interprétations arbitraires. Donc, il doit préciser les prescriptions, identifier les prescriptions qui sont à observer. Alors, j'ai pris des exemples de la propriété, de l'usage des biens, de la réputation d'autrui, mais c'est aussi vrai des contrats de travail, quand un employé s'engage dans une entreprise, ou même simplement dans un ménage, ben, il faut qu'on précise les termes du contrat, quel type de travail lui demande-t-on, combien d'heures, comment sera-t-il rémunéré, et on s'engage des deux côtés. Voilà. Et si on ne tient pas le contrat, eh bien, on peut aller vers les prud'hommes, faire des procès, et évidemment, on peut changer à l'amiable les termes du contrat, mais enfin, on sait qu'on engage quelqu'un pour tant d'heures et qu'on lui devra tant. Et la personne qui s'engage sait qu'elle devra faire tant d'heures de travail et qu'en compensation, elle recevra tant. Et donc, on voit bien que le droit a pour principe d'éviter les abus. Les abus du travailleur qui dirait « je vais travailler 4 heures par jour, mais qui ne travaillerait que 2 heures, qui ne viendrait pas », mais les abus de l'autre côté, du patron qui voudrait le faire travailler 6 heures ou 5 heures alors qu'il a fait un contrat pour 4 heures. Alors, ces règles, elles peuvent varier, et elles varient effectivement dans leur contenu, mais si on change les règles, c'est pour en mettre d'autres. Il ne peut pas y avoir de société, finalement, sans droit. On va trouver des règles plus adaptées, plus adéquates, plus justes. Mais ces règles poseront d'autres limites. Il n'y a pas de droit qui ne pose des limites. Si bien qu'on pourrait dire que dans nos sociétés, si démocratiques soient-elles, le droit représente une forme de l'interdit moral. Et bien que ce soit toujours très difficile à entendre, pour nos contemporains, il n'y a pas de morale sans interdit. Ne serait-ce que la règle d'or, ne fais pas à autrui ce qu'on n'aurait pas qu'il te fasse. On pourrait dire que c'est l'interdit des interdits. Bon, mais ça c'est l'interdit, disons, moral. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ne pas faire autrui ce qu'on n'aurait pas qu'on te fasse? Ça ne dit rien de précis et de concret. C'est un interdit formel, mais tout à fait important. Le droit est dans nos sociétés une forme légale d'interdit. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a tant de contestations autour du droit. Parce que dans une société libérale, libertaire, qui promeut avant tout la liberté de l'individu, la libre disposition de soi, il est certain que le droit est mal vu. Parce qu'il m'empêche de faire des choses. Ou il m'oblige à faire des choses. Et je préférerais, si je suis patron, moins payer mon employé, le faire travailler davantage, et si je suis employé, évidemment, de faire exactement le contraire. Alors, je dirais, c'est là qu'on voit aussi que comme les rapports sociaux ne se régulent pas d'eux-mêmes, Ça, c'est l'illusion du libéralisme. Ne se règle pas d'eux-mêmes. Il faut donner une règle dans le comportement. Et on peut même se demander si, malgré les cris d'orfraie que l'on jette souvent à l'égard du droit parce qu'il pose des interdits, on peut se demander si justement une société démocratique ne va pas tout à l'inverse à ce que certains juristes, comme Antoine Grappon et d'autres, appellent une juridicisation de nos sociétés. C'est-à-dire que plus, en effet, les références religieuses ou les références morales baissent, qui avaient quand même pour rôle de bloquer les violences ou de les réduire, plus on va multiplier le droit. Il y a maintenant un droit des enfants, ce qui n'existait pas jadis. Parce qu'on pensait qu'à l'intérieur de la famille, on arriverait tout de même, par l'affection, par la tendresse mutuelle, à régler les rapports sociaux. Or, de fait, on constate qu'il y a des enfants qui sont abusés par leur propre père et mère. Donc le droit s'est immiscé dans la vie familiale et il s'est immiscé entre conjoints. Et ainsi de suite. Les exemples actuels montrent qu'on va multiplier les contrôles fiscaux pour les ministres, les personnalités politiques, etc. On en rajoute. En même temps qu'on dit, mais nous sommes une société de liberté, chacun fait bien ce qu'il veut, dans le même temps, on s'aperçoit que ça n'est pas totalement possible. Et au contraire, puisque d'une certaine façon, les consciences morales sont souvent éteintes ou laxistes, le droit vient se substituer, la règle, la norme vient se substituer à la responsabilité personnelle. Voilà. Alors, je voudrais ajouter que il y a une sous-catégorie de droit que nous connaissons bien, qui sont les codes déontologiques. Les codes déontologiques, c'est pas tout à fait du droit, c'est des règles qui viennent aider une profession donnée à éviter, disons, pour faire vite, les dérapages, qui donnent des consignes, si l'on veut, qui sont éthico-juridiques. Les journalistes, les médecins, évidemment, avec le serment d'Hippocrate. Mais la plupart des professions ont maintenant un code de déontologie qui sont censés aider le personnel à trouver des relations justes. Bon, un journaliste sait qu'il ne doit pas livrer au public une information sans l'avoir vérifiée. Parce que s'il ne la vérifie pas, il y a des tas d'ennuis. Et ne pas trop nuire à des personnes de manière arbitraire. Le problème, c'est qu'on peut aller piquer des informations aujourd'hui grâce à Internet et le jeter en pâture au public. Bon, normalement, un code de déontologie journalistique devrait interdire ce genre de choses. Cela veut dire que ces codes déontologiques sont une traduction de l'idée de droit, à savoir que tout ne se vaut pas. Tout n'est pas possible. Si vous êtes journaliste ou médecin ou banquier, tout n'est pas possible. Tout ne devrait pas être possible. Ce qu'on attend d'un journaliste, c'est qu'il nous informe, que son information soit vérifiée, et, j'allais dire un peu méchamment, non pas qu'il soit un inquisiteur ou un justicier. Bon, de même, ce qu'on attend d'un médecin, évidemment, c'est que ils prennent en considération notre santé, qu'ils mettent en œuvre toutes les capacités qui sont les siennes, et pas qu'ils viennent nous interroger sur des choses qu'ils ne regardent pas, un compte en banque ou... Bon, la limite est toujours très difficile, en effet, à poser, surtout dans le cas du médecin, parce que la vie intime va jouer, évidemment, dans le cas de la santé. Alors, je dirais déjà, par le fait qu'il affirme que tout n'est pas possible, le droit a une substantialité éthique. Parce qu'il devient régulateur des relations humaines pour empêcher les violences et pour ouvrir par conséquent un espace de droit et un espace de justice à l'intérieur duquel les personnes vont pouvoir vivre comme elles l'entendront. Je sais, si je prends un emploi, que je suis tenu de travailler tant d'heures par jour. Dans ces tant d'heures, je fais ce qui m'est demandé de faire, mais pas plus qu'on m'a demandé de faire. Alors, l'employeur peut être généreux, payer davantage que ce qu'il a prévu, ça tout à fait, mais pas moins. Sauf abus, dont le droit, en principe, doit écarter de relations sociales. Alors, je dirais que la densité éthique du droit, elle tient dans la manière d'éplucher l'idée « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse », parce que le droit nous rappelle cette vérité banale que nous ne sommes pas seuls au monde. Et que les relations humaines ne peuvent pas être laissées à la seule initiative individuelle ou à la subjectivité, si bienveillante et si bien intentionnée soit-elle. Vous voyez, le droit nous rappelle qu'il y a toujours des abus, même entre amis, et même dans un couple. Il vaut mieux faire un contrat de mariage, on peut négocier les termes, et ne pas dire « Oh, mais on s'aime tellement, qu'on met tout en commun, que... » Parce que ça, c'est la meilleure manière d'aller tout droit dans le mur, n'est-ce pas, et de provoquer des violences. C'est aussi vrai, d'ailleurs, dans la vie religieuse. Pourquoi y a-t-il un droit canonique? Pourquoi y a-t-il des règles dans la vie religieuse? Ben, c'est exactement pour la même raison, pour éviter les abus des uns des autres. On sait à quoi s'en tenir. Le droit nous apprend à quoi nous en tenir, et donc nous apprend que nous ne sommes pas seuls, et qu'il peut y avoir précisément des abus que le droit est tenté de canaliser. Autrement dit, le droit rappelle à chacun qu'il y a à côté de lui d'autres ayants droit qui ont des droits sur lui, qu'il se situe lui-même dans un réseau de relations qui sont source de droits et de devoirs. Nous sommes propriétaires ou locataires, nous sommes salariés ou employeurs, nous sommes mari ou femme, parents ou enfants, et nous n'avons pas, selon que nous rentrons dans l'une ou l'autre catégorie, les mêmes droits. Alors on pourrait dire que le droit a une fonction aussi, non seulement de canalisation de la violence, mais une vocation d'éducation de l'individu. Parce que le droit nous éduque d'une certaine façon à la relation, et de fait, il règle nos désirs et il les limite. C'est pas parce que je suis le patron ou le supérieur de la communauté religieuse que je peux imposer à mes subordonnés ce qui me passe par la tête. Le droit me dit non. Rien de plus. Donc vous limitez vos désirs. Vous aimeriez bien qu'au lieu de faire 2 heures de méditation, on en fasse 3. Ben non, les règles prévoient 2. Si vous voulez en faire 3, en fait, c'est 3. Ben n'obligez pas les autres à en faire 3. Même chose, j'aimerais bien que l'employé reste 1 heure de plus. Non, vous avez convenu avec lui qu'il restait jusqu'à 5 heures. Ben vous le libérez à 5 heures. Point. Donc ça limite les désirs. C'est très important. Cela veut dire par conséquent que le droit évite des attitudes qui seraient non régulées, arbitraires et excessives. Et d'une certaine façon, le droit nous rappelle à chacun de nous notre finitude sociale. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas de pur esprit. Nous pouvons abuser des autres, je dirais, sans même nous en rendre compte. Et ici, la bonne volonté ou la bienveillance est, pour certains côtés, le pire ennemi du droit. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, après cette idée de, je vais revenir d'ailleurs là-dessus, l'idée que tout n'est pas possible dans les relations humaines, l'intérêt du droit, c'est qu'il est classificateur. Comme je viens de le dire, il nous classe chacun de nous, vous êtes un mari ou une femme, vous êtes un propriétaire ou un locataire, vous êtes un salarié, ou un employé. Il classe, et déjà il met de l'ordre. Le droit est toujours du côté de l'ordre. Il met de l'ordre. Je sais qui je suis et à quoi je suis tenu dans mes relations sociales. Il met de l'ordre. Et justement, il évite la violence, le désordre. Il évite le chaos. Et il n'y a rien de pire qu'une société dans laquelle on ne sait pas quoi s'en tenir. Où on est dans l'arbitraire. La loi, en principe, c'est que je dois payer tant d'impôts étant donné mes salaires. Pas plus, pas moins. Je sais à quoi m'en tenir. Donc, je peux organiser ma vie, partir en vacances, ou au contraire, ne pas prendre de vacances parce que je ne pourrais pas payer mes impôts. Je le sais. Je suis classé dans telle catégorie de contribuables. Mais attention, cette classification n'est pas arbitraire. Voilà le point. Et là, nous pourrions ouvrir un chapitre tout à fait important sur certaines théories du droit que l'on peut appeler les conceptions positivistes du droit. Les conceptions positivistes du droit, elles sont majoritaires dans la pensée de beaucoup de juristes et de magistrats. Et cela revient à dire, le droit est le droit parce qu'il a été posé souverainement, à nouveau, par le législateur. Et j'entendais l'autre jour un sénateur, socialiste, tenir exactement cette thèse, qui est très étrange de la part d'un socialiste, enfin bon, comme leur idéologie de Paravolo, ça n'est pas tellement étonnant. C'est le droit et le droit. C'était posé par les législateurs, ou par la majorité. Point final. C'est-à-dire que le droit dépend entièrement de l'autorité qui le pose, et on retrouve les théories de la souveraineté, le citoyen étant soumis à cette autorité souveraine n'a qu'à se conformer à la loi et lui obéir, point final. Il peut tricher, bon, mais s'il se fait pincer, il aura des ennuis. Alors, ce que je voudrais, je crois que cette théorie est très tentante de dire, ben, le législateur pose le droit, c'est terminé, comme le règlement, comme un règlement. Bon, je prends un exemple un peu grotesque, mais les cours au Centre Sèvres commencent à 17h, finissent à 19h. La théorie positiviste du droit dira, ben, écoutez, cherchez pas de raison, il n'y a pas de, cherchez pas des métaphysiques dans le fait que ça commence à 17h, que ça finisse à 19h. Ça a été décidé par l'autorité universitaire qui dirige cette maison. Et il pourrait changer. Il pourrait dire, ben, ça va commencer à 17h30. Ça finira à 19h30. Il pourrait le dire. Et pourquoi il le fait? Ben, parce qu'il faut mettre un peu d'ordre. Si chacun disait, moi, j'arrive quand ça me plaît. J'arrive à 4h30. Moi-même, j'arrive à 6h30. Ben, ça serait la pagaille totale. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait posé une règle, le président du centre ou les doyens, arbitraire. Ça pourrait être 4h. Bon, ça ne le sera pas parce qu'il va tenir compte quand même un peu de la disponibilité des gens. Mais au point de vue, voilà, la théorie positiviste du droit retiendra surtout l'idée qu'il y a une décision qui a été prise par l'autorité légitime. N'allez pas faire de la métaphysique sur 17h et 19h. C'est comme ça, ça pourrait être autrement, on ne veut pas se battre là-dessus. Ça, c'est une théorie très forte chez les juristes. Le droit est le droit, vous ouvrez le code, vous trouvez ce qui est inscrit dans le code. Je crois que c'est une théorie extrêmement dangereuse et qu'elle oublie, malheureusement, à nouveau ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le droit est lourd de valeurs implicites. Alors effectivement, dans le cas de règlement comme celui que je viens de dire, en dehors d'une sorte de mise en ordre et de clarification pour qu'on soit tous d'accord qu'on commence à 17h et non pas à 17h30, il n'y a pas de valeur infinie là-dedans. Seulement, comme je le disais tout à l'heure, déjà dans le sens de la propriété privée, ben il suffit de lire Marx pour s'apercevoir que la propriété privée, elle est liée à une certaine conception de la liberté individuelle, c'est-à-dire qu'on estime, alors à tort ou à raison, on peut discuter, que quelqu'un qui serait dépouillé de toute espèce de propriété, qui n'aurait pas de bien à lui, y compris son logement, sa voiture, qui serait totalement dépendant de la communauté ou de l'État, ben justement, qu'est-ce qu'il en serait de cette liberté? Donc, dans la philosophie du droit, on va dire, mais non, la liberté, la propriété, alors il faut en poser les limites, évidemment, est une condition de la liberté. C'est une philosophie qui s'implique derrière ça. La non-commercialisation des corps, un problème qui est aujourd'hui très débattu, la non-commercialisation des corps, la brave idée du père Kant, hein, c'est-à-dire que tous les objets sont échangeables et ont un prix. Mais la personne humaine, jusque dans son corps, elle a une dignité et ne relève pas de l'échange marchand. Voilà une idée qui est aujourd'hui tout à fait contestée, parce qu'elle relève de certaines philosophies de la personne. Je ne peux pas vendre mon corps, et on ne peut pas me l'acheter. Abolition de l'esclavage, c'est quand même ça. Ou mon corps, je peux en disposer comme la prostitution, même chose. Si on dit, votre corps vous appartient, il n'y a pas de problème. Alors on voit bien la contestation aujourd'hui, on va dire, mais la liberté implique que si quelqu'un, homme ou femme, désire vendre son corps sous tarif, etc., c'est plus de la prostitution, c'est comme on dit maintenant, un travailleur du sexe. Donc il faut le rémunérer comme un travailleur, un menuisier, un sidérurgiste, etc. Bon, c'est une autre philosophie de la personne, mais notre philosophie actuelle qui parle de la non-commercialisation du corps, c'est pas seulement une règle qui a été posée une fois pour toutes, c'est une règle qui relève d'une certaine philosophie, peut-être même d'une théologie, qu'on peut évidemment discuter, qui peut évoluer. Mais, par exemple, je prends un autre exemple, la gratuité du sang, du don du sang. Aussi bien la gratuité du don de sperme, si on peut parler de don. Ben, il y a d'autres pays où on fait payer le don du sang. Bon, il y a l'idée que, je ne sais pas bien ou juste, mais c'est une certaine philosophie de la générosité qui est derrière l'idée du don du sang. Parce que le sang se renouvelle, etc. Puis il y a une idée de solidarité avec les autres. Bon, ça relève d'un certain sens à soi-même, à son propre corps, et évidemment à autrui. Alors, on pourrait dire de même, si le droit vient sanctionner les traités, accords, salariaux et autres, c'est parce que notre droit considère comme extrêmement important la responsabilité et les engagements qu'on prend. Si on disait, oh ben, je m'engage pour un temps, je me retirerai demain, ben, il n'y a pas besoin de sanctionner les coups de canif donnés aux contrats sociaux, par exemple. N'est-ce pas, l'idée de flexibilité? On voit très bien aussi, on va dire, oh ben, écoutez, non, on peut. Pour le moment, non. On dit non. Il faut que vous teniez votre parole. Donc, ça suppose, dans un certain sens, la responsabilité humaine. Que celui qui s'engage, s'engage réellement. Alors, ça suppose une certaine conception de la responsabilité humaine, ça suppose une certaine conception du temps, ça suppose que si je m'engage aujourd'hui pour rendre l'argent que j'aurai emprunté dans 6 mois, ça suppose que j'accepte de maîtriser ce temps et que je ne pourrais pas dire au bout de 6 mois, bah, vous savez, ça m'a échappé, j'ai plus pensé, j'étais occupé à autre chose. Vous dire, monsieur, vous étiez engagé à... Voilà, promesse, le rôle de la promesse qui est évidemment fondateur. Alors, on voit très bien les grandes difficultés qu'on connaît aujourd'hui autour de la paternité, de la maternité, autour des, ce qu'on appelait jadis des mères porteuses, des prêts d'utérus, et toutes ces difficultés qui font que, voilà, quels sont les enjeux éthiques dans cette affaire? Et je crois que la difficulté de la position positiviste, c'est précisément de dire, oh ben, on pourrait changer, ça n'a pas d'importance. Il suffirait que le législateur fasse éventuellement un débat au Parlement et on change. Eh oui, mais il y a une portée humaine dans tout ça, qu'on le veuille ou non. Quelle portée humaine? Voilà qui est très difficile à déterminer, mais je crois qu'il ne faut pas minimiser cette portée humaine. Je voudrais ajouter dans cette ligne, et qui est évidemment tout à fait étranger à une pensée positiviste, et à l'idée à laquelle je tiens de plus en plus, c'est qu'à travers le droit, une société ne se contente pas de réguler les rapports sociaux, de les réguler dans un certain sens de la justice, de les réguler pour éviter les empiétements des uns sur les autres, de réguler pour éviter les caprices et les arbitraires, mais qu'à travers une loi, une société se dit à elle-même ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Je dirais que c'est la valeur symbolique de la loi. Symbolique, c'est pas au sens faible du terme, c'est au sens fort du terme, c'est-à-dire voilà le symbole au sens où on parle du symbole des apôtres, on parlera d'un symbole au sens romain du terme, des choses qui se complètent mais qui disent quelque chose du tout. Qu'est-ce que dit une société sur elle-même? Eh bien, si on prend l'exemple du soi-disant mariage pour tous, ben, il est clair qu'à travers cette proposition de loi, elle n'est pas encore votée, mais elle est en train de l'être, une société dit quelque chose sur elle-même. Elle dit en particulier une certaine indifférenciation sexuelle. C'est pas simplement une règle pour aménager des relations entre homosexuels ou lesbiennes, pour réguler les situations. On dit à soi-même que l'on met sur le même niveau, sur le même catégorie de mariage, l'union entre deux sexes différents et l'union entre le même sexe. Donc, on se prononce pour une indifférenciation sexuelle. Alors, et on pourrait étendre ça sur beaucoup d'autres domaines. Je crois qu'il faudrait beaucoup insister sur cet aspect symbolique de la loi. Une société se dit à elle-même. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la gravité, la difficulté des enjeux pour toutes ces questions que nous connaissons bien aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas simplement de changer une règle pour le plaisir de la changer, de dire les cours commenceront à 17h15 plutôt que 17h. Vous comprenez, c'est bon, 17h15, ça va gêner peut-être que personne, mais bon, on ne va pas se battre pour ça. Mais quand il s'agit de questions, justement, de relations humaines, de sens de la sexualité, de la propriété, de sens du corps, du sens de l'enfance, du sens de la souffrance, à travers l'euthanasie, etc., ben, les enjeux sont considérables. Et le juriste est évidemment coincé, il ne peut pas simplement dire, ben, on va poser une règle, et puis voilà. 50 à l'heure ou 30 à l'heure pour traverser le visage. Bon, parce que, effectivement, il faut éviter de renverser les enfants et les vieillards qui traversent. Bon, on ne va pas se battre pour ça. Tout le monde va être d'accord. Et dès qu'on touche à des réalités plus substantielles, alors on est évidemment dans de grandes difficultés. Alors, ma deuxième remarque, c'est précisément, donc le premier point, c'était cette idée de classification qui a une substance éthique. Je voudrais, dans une deuxième remarque, insister sur la différence de finalité entre le légal et le moral. Bon, il y a des différences qui sont bien connues, que Kant avait déjà très bien vues. C'est que la loi a un côté extérieur. Elle est une règle qu'on lit dans les codes. Elle est une règle que l'on va sanctionner. Et il y a, pour faire appliquer la règle, tout un appareil judiciaire très important dans toutes les sociétés. Évidemment, il n'en va pas de même avec les principes moraux. Je peux ne pas respecter mon conjoint, l'humilier, alors sauf si lui-même porte plainte. Je veux dire qu'il y a des fautes morales qui ne relèvent pas, évidemment, du procureur de la République. On peut mépriser un enfant dans une famille, ça ne va pas relever directement du droit. Et la morale relève de l'intériorité. À nouveau, ce que on pourrait voir facilement, c'est ton œil, comme dit l'Évangile, n'est-ce pas, qui juge. C'est ton œil qui est important. Si ton œil est... C'est pas l'extériorité. Le droit, c'est l'extériorité. La morale, c'est plutôt l'intériorité. Et on pourrait dire que le droit règle, pose des règles qui sont marquées par l'extériorité. Cette extériorité, elle permet la coexistence plus ou moins harmonieuse et pacifique des libertés entre elles. Donc, il pose des conditions juridiques de la vie commune. Dans le cas de la morale, il en va évidemment autrement. Il s'agit pas seulement de la coexistence extérieure, mais de l'intériorité des individus et de leur subjectivité, au sens le plus profond du terme. Alors, ça c'est une première remarque, différence dans les finalités. Et il faut bien se rendre compte de l'importance de cette différence. Parce que autant le droit peut agir sur les extériorités, c'est-à-dire si vous avez pas payé, si vous n'avez pas payé vos impôts, ou si vous avez volé le bien d'autrui, le droit va vous punir, éventuellement, si on porte plainte. Dans le cas de la morale, le droit ne peut pas intervenir, il ne peut pas vous demander d'être fidèle à votre épouse ou à votre époux. Il ne peut pas vous demander d'être honnête, sauf si vous faites pincer. Ça, ça relève du jugement intérieur, ou de Dieu, ou de la conscience. La morale ne relève pas du jugement du magistrat, elle relève du jugement moral, du jugement intérieur, ou du jugement de Dieu. Et voilà, c'est pas, donc, et il faut faire attention que, subtil, le droit ne s'ingère pas dans les convictions morales et ne devienne pas le bras séculier de la morale ou de la religion. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur l'idée de laïcité, mais elle est quand même là. La loi est tout à fait importante dans les relations sociales. Jusqu'où va-t-elle? Est-ce qu'elle peut vous obliger à aller à la messe le dimanche, à faire baptiser vos enfants? Vous mariez à l'église? On voit tout de suite que la réponse est claire, c'est sûrement non. Bon, donc dès que le droit s'immisce dans l'intériorité, c'est évidemment extrêmement grave. Mais en même temps, que veut dire l'immixtion? Que veut dire, voilà, jusqu'où poser la question? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est, je reviens sur l'idée de violence. J'ai dit tout à l'heure, le droit cherche à canaliser la violence, c'est-à-dire à poser des règles susceptibles d'être respectées. Et s'il ne l'est plus, ou pas de manière majoritaire, c'est qu'il y a un problème dans la pertinence de ce droit, s'il est sans effet. On pourrait dire qu'il cherche à poser les règles qui vont limiter la violence, je dirais à canaliser la violence. Il tente de canaliser la violence au sein de relations qui sont marquées par des violences au moins latentes, des inégalités, des injustices, des vices. Mais attention, le droit a pour finalité de canaliser la violence. Il n'a pas pour finalité de la supprimer. Et à nouveau, grande différence avec la morale. Le droit n'a pas pour but de supprimer toute forme de mal. En principe, c'est la morale qui s'en charge, ou la religion. Il ne doit pas en avoir l'ambition, et il n'en a pas non plus les moyens. Ou alors il devient inquisiteur. Il rentre dans la conscience personnelle. Le rôle du droit, c'est de viser à introduire de la justice dans un monde injuste, en introduisant ce que le philosophe américain John Rawls appelle des règles à peu près justes. J'aime bien cette expression qui peut être relativiste, mais c'est quand même vrai. Notre droit fiscal, notre droit du travail, il est à peu près juste. Et c'est pas l'injustice. Et on peut en effet toujours critiquer le droit et par conséquent le réformer. Mais si on le réforme, il sera à nouveau à peu près juste. Parce que les conditions de travail, les mentalités changeront. Les outils de travaux changeront. On peut pas avoir les mêmes règles du droit du travail. Aujourd'hui, on travaille devant ordinateur, comme quand on travaillait dans les manufactures que voyait Marx en Angleterre. Ben, c'est évident. Bon, donc ça veut dire qu'il cherche à canaliser, mais qu'il n'a pas l'ambition ni les moyens de supprimer la violence. Il vise à introduire de la justice dans un monde injuste, sans se donner l'illusion d'atteindre ou d'éteindre les sources de l'injustice, c'est-à-dire le mal en l'homme. Le mal en l'homme, l'homme méchant. Puisque l'homme est méchant, pour employer cette expression, il faut, le droit cherche à canaliser la violence pour que ce ne soit pas la jungle, l'état de nature. Mais le droit ne peut pas avoir, sans se dégrader lui-même, l'ambition de supprimer le mal. Ça, c'est la société totalitaire ou inquisitrice. D'où une ligne de crête à nouveau extrêmement étroite. Il n'a pas pour ambition le droit de rendre les hommes moraux malgré eux. Mais en même temps, il ne peut pas trop concéder à leurs vices. Voilà, et très difficile. Il doit réguler, interdire les excès et les injustices, sans prétendre supprimer les sources de la violence qui rendent le droit nécessaire. Donc il fait un travail nécessaire et toujours inutile, parce que la violence ressurgira sur d'autres côtés. Et si le droit se risquait sur cette pente, c'est-à-dire de devenir le bras séculier, ce que j'appelle le bras séculier de la morale ou de la religion, eh bien, il, au lieu de diminuer la violence, il risquerait de l'aggraver, d'aggraver les maux de la société. Alors, ça touche des problèmes extrêmement concrets et difficiles, hein, par exemple le problème de la prostitution, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Évidemment, on pourrait rêver qu'il n'y ait plus de prostitution du tout. Qu'il n'y ait plus d'hommes qui sollicitent des femmes qui sollicitent des hommes, qu'il n'y ait plus de femmes qui aient besoin de gagner leur vie comme ça, pourrait rêver de ça et dire, allez, on balaye tout ça. Si on allait jusqu'au bout, alors ça suppose un contrôle policier, une interdiction, la mise en prison de ces femmes, ou peut-être même la peine de mort pour les proxénètes, qui entraînerait dans une société terrible. On peut transposer dans le cas de l'avortement. L'ancienne règle que nous connaissions avant les années 74 se punissait de peine de mort. Quand même se le rappeler, non seulement les femmes qui se faisaient avorter, mais tous leurs complices, médecins, sages-femmes, etc. Alors, on pourrait, c'était le vœu de Jean-Paul II, on pourrait revenir à cette situation. Voilà, la pureté du le droit, parfaitement conforme avec la morale. On punit de mort tous ceux qui font le crime, comme dit Jean-Paul II, de l'avortement. Alors, on peut vouloir ça? N'est-ce pas? On peut vouloir ça? C'est dans les encycliques, Evangelium, Veritatis plein d'autres. On peut le vouloir, mais il faut voir les conséquences. C'est-à-dire que vous allez entraîner quand même un certain nombre de violences et de maux. Vous voyez? Le droit ne sera jamais si pur que ça. C'est-à-dire que vous allez réétablir la peine de mort, faire des poursuites, et puis vous aurez toujours celles qui auront suffisamment d'argent pour aller se faire avorter ailleurs dans les pays. Bon. Donc vous allez faire une injustice à l'égard des femmes les plus pauvres. Alors voilà, le droit qui croit être en règle conformément à la morale, il va susciter lui-même des maux et des violences terribles. Alors qu'est-ce qu'on veut? Voilà le problème du législateur et je dirais son cas de conscience majeur. Et je voudrais citer ici, pour m'abriter derrière une autorité peu contestable, qui est l'autorité de saint Thomas d'Aquin, qui reprend d'ailleurs une idée de saint Augustin dans son De Libero Arbitrio. Mais saint Augustin dit dans la Prima Secundae, question 91. Analyse les problèmes qui sont plutôt de morale, mais il reprend pratiquement l'idée de saint Augustin. La loi humaine, ce qu'il appelle la loi humaine, c'est le code civil, c'est la loi, le droit. La loi humaine ne peut punir ni proscrire tout ce qui se fait de mal. Car, en voulant extirper tout le mal, elle ferait disparaître en même temps beaucoup de bien et mettrait obstacle à l'utilité du bien commun, précisément nécessaire à la vie commune, à la vie humaine en commun. Le docteur Angélique. Le droit ne peut pas avoir l'ambition de supprimer tout le mal, parce qu'on rentrerait dans un système qui paralyserait, je traduis la formule saint Thomas, qui rendrait la vie humaine impossible, terrorisante. Alors je dirais, ben là, tout le rôle du législateur, c'est de trouver le juste chemin. Il peut pas jouer à l'éducateur de morale. Ça, c'est les églises, c'est les philosophies morales, les sagesses, qui vont dire aux gens, et elles ont un rôle pour ça, l'avortement, c'est très vilain, la procréation, la prostitution, c'est plutôt mal. Mais le législateur, il doit limiter. Il peut dire ça aussi, c'est très mal, mais il ne peut pas rêver de la supprimer. Alors, on peut dire la même chose pour la dépénalisation de la drogue. Je cite alors cette fois Kant, dans la religion et dans les limites de la raison. « Malheur au législateur qui voudrait, par la contrainte, réaliser une constitution visant des forces éthiques, des forces morales. » Ce serait une constitution, justement, tyrannique. Alors voilà le problème du droit, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus, simplement faire deux remarques, c'est que d'un côté, il doit en effet limiter la violence ou le mal, et d'un autre côté, il ne peut pas prétendre l'éradiquer totalement. Et il y a une sorte de détresse du droit, de grandeur et de détresse du droit. Il doit punir les criminels, mais il y aura toujours des gens qui tueront leur maîtresse ou leur amant ou leur voisin. Alors, est-ce une raison pour laquelle il faut supprimer tout droit pénal? Évidemment pas. Bien, alors on peut avoir un droit pénal tout à fait déficient, on peut avoir un droit pénal tellement rigide qu'il ne peut pas s'appliquer, et ainsi de suite. Alors, voilà le grand problème pour le législateur, et c'est là que nous trouvons le problème politique, c'est que le législateur ne peut pas obéir à la verticale, à une morale particulière. Il doit tenir compte des mœurs d'une société, il doit tenir compte aussi évidemment des prescriptions morales, mais il ne peut pas les traduire directement dans le droit. Il doit donc chercher à limiter le plus possible les risques de développement du mal ou de la violence, mais il doit savoir en même temps qu'il n'y arrivera jamais totalement. Et je crois que c'est la croix, si j'ose dire, de tout législateur. Et en tout cas, évidemment, il ne faut pas une loi serait mauvaise, qui aggraverait les violences, qui contribuerait à augmenter le chaos, l'indifférenciation sociale, etc., ou les injustices. Alors, ça, c'était une première remarque. La deuxième remarque, c'est que, évidemment, si le droit, comme je le pense, essaye de le montrer, a une substantialité éthique, il est forcément à distance de la morale. Il ne peut pas appliquer la morale, disons la morale évangélique ou la morale catholique. Il ne peut pas être de plein pied, il ne peut pas être conforme à la morale en tant que telle. Et donc il y a toujours une détresse du droit qui sera toujours en deçà des exigences morales. Le rôle, les exigences morales, elles sont rappelées justement par les traditions philosophiques. Elles sont rappelées par les traditions religieuses, le décalogue, le sermon sur la montagne. Mais on ne peut pas faire une loi qui oblige à suivre les règles du serment sur la montagne. Ça n'a aucun sens. Non seulement ça n'a aucun sens, mais ce serait éminemment contradictoire par rapport aux valeurs évangéliques qui relèvent de la liberté, si tu veux. Voilà. Alors, je signale que sur ce point, il y a évidemment beaucoup de... Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Comme j'ai fait le jour tout à l'heure, il y a beaucoup de débats, non seulement dans la philosophie du droit... J'ai fait allusion au positivisme juridique, mais dans l'Église catholique, il est certain que la position réaffirmée à plusieurs reprises par Jean-Paul II est la position, comme il le dit lui-même, de la conformité stricte du droit à la morale. C'est-à-dire à la morale telle qu'il l'entend lui, c'est-à-dire à la morale catholique. Alors on voit bien n'est-ce pas, le soupçon et l'inquiétude du pape, qui est tout à fait légitime, c'est de voir dériver le droit moderne du côté du relativisme, du subjectivisme, du côté de la justification de toute espèce de pratique, d'euthanasie, d'avortement. Seulement, on peut être tout à fait conscient de ces dangers, mais il ne faut pas demander des choses qui seraient encore pires que le mal, n'est-ce pas, auxquelles on veut remédier. Parce que comme je disais tout à l'heure, si vous prenez le cas de l'avortement, ça nous conduit à quoi? Oui. Ah ben voilà, c'est des domaines où il faut toujours se méfier des chiffres, parce qu'ils sont la plupart du temps invérifiables. J'ai assisté, hein. Ceux qui sont contre ont tendance à dire c'est affreux, ça a augmenté affreusement. Là, je crois que le terrain des chiffres est toujours extrêmement mouvant, hein, et qu'il faut faire très attention. Moi, je veux bien qu'on dise ça, hein, mais alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? Et quelle est la solution? Alors, ce qui s'est produit, c'est que, surtout par rapport à 1974, on a élargi indéfiniment la loi. C'est-à-dire que la loi de 1974 de Madame Weil était très restrictive. Et puis, il faut bien dire, les gouvernements socialistes, dont Madame Royal et Madame Guigou, ont peu à peu élargi l'avortement à toute espèce de demande. Et aujourd'hui, toute forme d'avortement est remboursée à 100%. Oui, d'accord, ben, si tu veux, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Eh oui, mais voilà. Ah oui. Oui, non, mais c'est bien. Oui. C'est des deux côtés, mais c'est aussi qu'on a complètement bazardé la loi sur l'avortement et qu'elle est devenue maintenant une passoire. Oui. Oui, mais enfin, la loi antérieure, ça rejoint le sujet tout à l'heure, n'était pas appliquée. On ne va pas demander la peine de mort à un médecin ou à une femme qui s'est fait avorter. C'était inapplicable. Non, mais il faut être tout à fait logique, hein, là-dessus. Moi, je veux bien qu'on en revienne, mais alors... Il ne demandait pas l'application de... Bien entendu qu'il ne le dit pas. Mais si tu lis ces textes, tu te dis, voyons pratiquement ce que ça va donner. Si c'est un crime, ce qu'il dit, ben, il faut être logique. Non, mais je crois qu'il faut faire attention, parce que ça, c'est le purisme moral. Je suis du côté de la morale, évidemment, ça ne peut être que pur. Mais, cher monsieur, voyez un peu les conséquences de votre morale si pure. Ben, c'est Saint Thomas. Regardez les conséquences de votre morale si pure. Elle n'est jamais si pure que ça. Alors, le problème, c'est la pondération. Et qu'est-ce qu'on fait là-devant? Alors, les églises ont un travail, je crois, de moralisation des esprits, ça, bien entendu. C'est à elles de le faire, mais elles n'ont pas à attendre du droit qu'il soit le bras séculier de leur position. Ça, je crois que c'est extrêmement périlleux. Non, non, moi j'aime pas cette notion de moindre mal, parce qu'un avortement, c'est un avortement, c'est pas un moindre mal. Enfin, je m'excuse, mais je suis pas d'accord avec cette formule de moindre mal. Donc, le législateur, il essaie de résoudre des problèmes graves, difficiles, peut-être insolubles, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de justice possible, qu'on tienne le plus compte possible des faiblesses des gens, etc., sans prétendre qu'il va résoudre tous les problèmes.
Est-ce que vous pouvez bien vérifier,
oui.
Parce que là, j'ai vraiment pas compris. Ben, il le demande. Bien sûr qu'il ne le dit pas. Non, non, il ne le dit pas. Mais si vous réfléchissez aux conséquences, vous comprenez, c'est très beau de tenir aux principes, mais moi j'aime savoir à quoi ça nous conduit, les principes. C'est comme chez Pascal, on est dans l'altitude, en face, il n'y a que... Ben oui, mais alors, oui, mais vous savez, vous savez les réticences qu'il a eues jusqu'au bout à condamner la peine de mort. Non, non, ah, si, quand on lui a demandé à plusieurs reprises qu'est-ce qu'il pense de la peine de mort, non, non, mais dans d'autres textes, il a toujours été réticent pour qu'on ait la peine de mort. Ça c'est tout à fait clair. Oui, enfin, ça n'en... Même la loi restrictive au Brésil n'empêche strictement rien. Elle permet la clandestinité et donc l'exploitation de pauvres femmes. Alors c'est sûr que les évêques brésiliens peuvent dire « Regardez, on est parfaitement en règle avec la morale. » Mais regardez un peu ce qui se passe, on l'a vu à Recife. Est-ce qu'il n'y a pas un angélisme aujourd'hui ? Oui, ah mais ça c'est l'angélisme de nos gouvernants. Oui, mais il faut, là aussi, si on veut être entendu, il faut faire des propositions concrètes. Tant qu'on s'en tient au niveau des principes, on est dans la pureté. Mais qu'est-ce que tu proposes concrètement ? C'est ça le point. Non, mais pour aujourd'hui ? Oui, parce que c'est très facile d'être sur l'aventin des principes et de dire là, on est à la pureté morale parfaite. Méfie-toi de juger une génération antérieure comme des dindons. Non, non, mais c'est de la tendance aujourd'hui des jeunes clercs, tous les... Hein, là, quand même... Non, eh bien, écoute, je vais te lire un petit passage d'un député... Je crois pas. Ben, il faudrait voir ce qui s'y passe. Non, mais je ne suis pas pour l'avortement, nous parlons du droit, hein. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parle du droit. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Parce que, en Brésil, c'est merveilleux. Mais allez voir ce qui se passe. Concrètement, c'est encore pire qu'ailleurs. Mais non, non. Alors là, les chiffres, non. Ça, alors écoutez, là, vous ne ferez plus. Parce qu'on l'a vu en... Mais parce que c'est clandestin, donc vous ne le savez pas, évidemment. Comment ? Ben oui, je le crains un peu. Oui ? Oui ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas le droit qui fait l'éducation civique des citoyens, c'est les familles, l'éducation nationale, l'école. Le droit, est celui qui fasse le droit là-dessus. Et c'est ce que j'ai tenu, c'est-à-dire plus la conscience morale s'éteint, plus le droit prend de la force. C'est ça le problème de nos sociétés, c'est plus la conscience morale droite, enfin on le voit bien dans les problèmes actuels. Moins on a des gens qui sont conscients de leurs responsabilités, plus on va dire on va multiplier les commissions, les groupes de contrôle, etc. Mais le droit comme tel, bien sûr que l'éducation est tout à fait importante, mais ce n'est pas au droit comme tel. Là, nous parlons de droit. Le droit comme tel, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent ? Ah ben oui, mais ça fait partie des ambiguïtés. Ah oui, mais ça ne fait pas des ambiguïtés. Ça ne relève pas du droit, ça relève des opinions fausses ou des appréciations inexactes. Donc le droit n'a donc un rôle limité, hein, qu'il y ait des problèmes d'éducation, des familles, des écoles, ça, bien entendu, qu'il faille former des citoyens, et c'est ce qu'on ne fait peut-être pas assez, c'est en donnant des savoirs, plus qu'en donnant un certain sens de l'homme, de la vie, du corps, etc. Ça, bien sûr, mais le droit là-dedans, il est impuissant, si vous voulez. Il enregistre que la conscience morale s'éteint ou qu'elle est faussée. Excusez-moi, oui. Oui, mais ça, bien sûr, c'est un affaissement de la conscience morale. Oui. Oui, mais comment vous me remédiez à ça? Vous allez... Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais comment vous allez remédier à ça? Est-ce que vous allez mettre un gendarme dans toutes les... Alors, si vous refaites une loi, un gendarme, je pousse à bout. Un gendarme pour contrôler toutes les pratiques médicales? Non, mais c'est un affaissement de la conscience. Mais oui, mais... Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est les faux sens, les contresens. Ben oui, mais ça n'est la faute ni du droit, ni de la morale que les gens fassent des contresens. Non, mais comment voulez-vous... Il faut expliquer, mais ça, c'est le rôle de... Ben écoutez, le droit vous permet de divorcer, il ne vous oblige pas à divorcer, là aussi... Non, mais je veux dire, le droit vous permet des tas de choses que vous ne mettez pas en pratique. Bien entendu. Non, je veux dire, c'est pas... Alors, où il faudrait dire, le droit vous régule vos conduites, donc puisque le divorce est permis, vous devez divorcer. Personne n'a jamais dit ça. Eh bien oui, mais ça, c'est des contresens. Alors que le droit ouvre des possibilités... Je ne dirais pas la morale collective, non. Il déplace l'éthique, les rapports sociaux que nous avons, il les avalise par certains côtés, et il ne peut pas faire totalement autrement, parce que sinon vous avez un droit inapplicable, merveilleux, on dirait c'est splendide, on regarde du point de vue du principe, les gens n'appliquent pas, et il y a toute espèce d'injustice qui en découle, il faut quand même bien voir ça. Mais il ne faut pas accuser le droit des choses dont il n'est pas responsable. Ça, c'est un problème d'éducation morale, qui est évidemment un grave problème dans nos sociétés, ça c'est évident. L'affaissement moral est quelque chose de tout à fait redoutable aujourd'hui. Où on en vient à ce que vous disiez, les gens ne voient même plus les problèmes. Et on peut se demander si ce monsieur Cahuzac lui-même a vu qu'il y avait un problème. Apparemment, quand on entend parler, il voit même plus qu'il y a un problème. Ah, me semble-t-il. Mais c'est ce que je disais l'autre jour, si vous voulez, ça relève de la vulgate idéologique actuelle. C'est l'idée d'autonomie, je ne dépends que de moi-même. Vous disposez de soi, inconditionnellement et sans influence des autres et surtout pas de la religion. Encore une fois, Madame Badinter disposait de son corps, la prostitution, pourquoi pas? Alors, si on peut disposer de son corps, pourquoi ne pourrait-on pas disposer de sa fortune? Si je veux la mettre à Singapour, aux îles Caïmans, dans la logique de cette idéologie, Ben oui, mais Cahuzac a raison, il est parfaitement moral. Dans cette morale-là, je ne vois pas ce que Mme Hannetin peut lui reprocher. Mais non, je voulais... Et je notais, dans le Nouvel Observateur de cette semaine, vous avez une grande page sur Ruvenogien, que j'ai cité l'autre jour, et qui est tout à fait dans cette ligne. Le Nouvel Observateur, c'est-à-dire un journal de gauche, exalte cette idée d'un libertaire qui dit mais la seule limite, c'est rappelé d'ailleurs dans le Nouvel Observateur, pour Rogien, ne pas faire souffrir autrui. Mais si M. Cahuzac place sa fortune à Singapour, qu'est-ce qui fait souffrir? Il ne fait souffrir personne. Donc à nouveau, où est le problème? Dans la logique de Rogien. Dans la logique de Rogien, je ne dis pas que je l'adopte puisque je la critique. Oui, ben, le Nouvel Observateur vous présente ça comme la grande réflexion morale d'aujourd'hui. Il n'y a aucune objection. Ben, je plaisante un peu en le disant, je pousse à dos, mais je crois que par certains côtés, oui. Je ne vois pas ceux qui tiennent cette thèse de la libre disposition de soi peuvent lui faire une objection. Sinon, alors nous trouvons le droit que c'est contraire au droit fiscal. Et donc, il a commis une injustice. Mais c'est purement légal. Lui, moralement, dans cette logique-là, qui n'est pas celle que j'adopte, bien entendu, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Je vois pas pourquoi tout le monde pousse des hurlements à gauche, puisque c'est la morale qu'on soutient. Nouvelle Obs cette semaine, c'est pas 30 ans. Oh, le système, je dirais pas, il faut se méfier du système, ça a l'air de dire que tous les gens qui sont dans le système sont forcément des Cahuzac. Oui, mais... Ah oui, oui, bien, ça c'est possible, oui. Et nous retrouvions Bodin qui s'indignait de la multiplication des règles parce qu'elles permettent justement tous les jeux et elles permettent de jouer d'une règle contre l'autre. On retrouve tout à fait ça, bien sûr. Oui. Oui. Oui, oui. Bon, sur le premier point, je crois qu'il faut se méfier, c'est un peu comme pour les chiffres, il faudrait regarder les législations elles-mêmes. Vous voyez, parce que aujourd'hui, on est quand même bassiné par la propagande. Donc on vous dit, je ne sais plus quel pays, en Uruguay, ils viennent d'accepter le mariage pour tous. Mais ils parlent peut-être d'union civique. Il faudrait regarder ce qu'ils disent. Oui, non, mais ça dépend, je n'en sais rien. Moi, je voudrais regarder, parce qu'on dit, vous voyez... C'est nous qui sommes en retard, etc. Regardez les dispositions, elles sont quelquefois beaucoup plus restrictives qu'il ne semble. Donc moi, comme je ne les connais pas, je ne me prononcerai pas. Je crois qu'il faut se méfier de l'intox, parce qu'on est quand même en plein intox là-dessus. Hein. Bon, d'autre part, même en Grande-Bretagne ou dans les églises anglicanes, toutes ces questions ne sont pas sans poser d'immenses problèmes. Comme vous savez, sur l'homosexualité, ils sont loin d'être unanimes, hein, parce que ça pose... Hein, oui. Oui, oui. Moi non plus, mais je constate que c'est pas, il n'y a pas d'un côté une Église catholique qui a des positions rigides, et puis de l'autre côté des protestants libéraux qui sont. Ah oui, je crois que c'est tout à fait faux. Non, ça pose des problèmes à tout le monde, bien entendu. C'est l'évolution des mœurs. Alors, pour en venir à votre deuxième point, moi, je crois qu'il faut éviter les affolements. Il faut éviter de croire que hier c'était magnifique et qu'aujourd'hui c'est la catastrophe. Parce que je crois à nouveau que nous avons des relations éthiques. Nous ne sommes pas sans éthique. Nous avons des relations qui sont d'ailleurs régulées par le droit. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà à nouveau les limites de cette idéologie du disposer de son corps. Mais non, je ne peux pas disposer du corps de l'autre. Je ne peux pas vous faire de vous une esclave. Ou alors c'est par la contrainte, etc. Donc nous avons des relations qui sont marquées éthiquement. Et ça, c'est quand même très important. Le droit nous structure d'une certaine façon. Il est même, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être la seule forme d'interdit qu'on nous. C'est pourquoi il est si attaqué et si difficile de s'y tenir. Donc, je crois qu'il y a des relations sociales qui existent à tous les niveaux. Dans la famille, les gens s'aiment quand même, en gros. Alors, peut-être qu'ils s'aiment pas comme leur grand-père s'aimait, mais ils s'aimaient. C'est quand même quelque chose de positif. Les gens travaillent. Vous avez des médecins qui sont quand même adonnés à ce qu'ils font. Et même la majorité, même des banquiers, je suppose, qui sont à peu près honnêtes. Bon, je veux dire que tout ne va pas à volo. Alors, le problème, c'est quand même la distinction entre ce niveau que j'appelle l'éthos et le niveau de la morale proprement dite. Le niveau de la morale proprement dite, c'est-à-dire le niveau du jugement moral qui risque d'être étourdi par l'intox, par la publicité, par le relativisme, c'est ça à mon avis le danger, mais il faut distinguer les deux. Et vous avez quand même des gens qui sont d'une tenue morale exceptionnelle quand même aussi. Tout le monde n'est pas Cahuzac dans les politiques. Hein, vous avez des gens qui sont très dévoués à la cause commune. Mais c'était vrai à toute époque, hein. Nous sommes, de toute façon, la conscience morale, elle flotte pas au-dessus du temps. Donc, nous sommes insérés dans le temps et nous sommes tous marqués. Parce que les réactions intégrisantes, genre islamistes ou intégristes catholiques, elles sont elles-mêmes marquées par le refus de ce relativisme. Elles se raidissent. Elles ne sont pas authentiquement chrétiennes parce qu'elles se raidissent. Mais elles sont marquées parce qu'elles refusent. Ça, c'est clair. Donc, personne n'est au-dessus du temps. Alors, effectivement, notre conscience morale aussi, à nous, est troublée. C'est pourquoi je reviens à nouveau sur l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, un chrétien doit continuer à s'alimenter intellectuellement, spirituellement, lire les Écritures, etc. C'est comme ça qu'on forge les volontés. Et moi, je comprends que les gouvernements soient inquiets de la situation de l'enseignement de la morale dans les écoles, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire enseigner comme morale? Bah, c'est ici, mais on n'aura pas le temps de le dire, je crois beaucoup au rôle des églises dans nos sociétés, ou des religions. Regardez combien de jeunes musulmans reviennent à l'islam dans des conditions certainement pas très heureuses, mais parce que ça leur donne des cadres, alors qu'ils partent à volo. Ça leur permet de, éventuellement, si on entend ce qu'ils disent, d'échapper à la drogue, d'échapper à... Et je crois que nos religions structurent, plus ou moins. Donc c'est très important dans une société moderne. Et moi je suis même plutôt étonné que des gouvernements, même socialistes, ne se rendent pas compte de ça. N'aident pas plus les religions dans leur travail d'éducation des gens. Notre laïcité, je vais y revenir tout à l'heure si on a un peu de temps, est un peu aberrante de ce point de vue-là, c'est un aveuglement. Parce que quelle religion dans nos sociétés veut reprendre le pouvoir? 23 va devenir le premier, veut devenir le président de la République? Ça va pas. Bien sûr que non. Mais les religions jouent un rôle éminent, aussi bien du côté musulman, protestant, catholique, ou éventuellement bouddhiste, ils ne sont pas trop dingues. Oui, mais ça, on ne le voit pas, parce qu'on est dans cette laïcité, une église qui veut mettre le... Or, c'est ça, quand même, un atout important du point de vue moral. Si on ne forge pas des hommes et des femmes qui ont des convictions, ça relève de la morale, ça ne relève pas du droit, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je ne souhaite pas que ce soit les gendarmes ou les CRS qui fassent la morale dans les écoles. C'est les familles, c'est les... Et comment nous-mêmes nous avons été éduqués à la morale parce qu'on a une grand-mère qu'on trouvait, ou un grand-père, ou un ami de la famille qu'on trouvait remarquable, et on s'est dit, tiens, ce type-là, quand même, il fait des choses. Enfin, je sais pas, on a... C'est très difficile, ça... Mais moi, je serais pas du tout négatif, parce que je suis pas sûr que hier, ou dans les sociétés antérieures, c'était la perfection morale. L'hypocrisie, le double jeu, les injustices sociales, le sort quelquefois de la femme ou des enfants, ou le travail des gens, quand même. Il faut voir dans les campagnes ce que les types faisaient, hein. C'était pas, c'était pas la tarte, hein, si j'ose dire. Puis quand même, au niveau de l'alimentation, des biens matériels, on a toujours tendance à cracher là-dessus. Enfin, quand même, la révolution qu'ont été, je vais essayer de dire ça, c'est un peu idiot, mais les machines à laver pour les femmes. Moi, je me souviens, dans les villages des régions où j'habitais, elles allaient au lavoir par tous les temps, dans l'eau glacée, pliées en deux, et quelquefois enceintes, pendant des heures. Alors, on peut cracher sur le progrès, dire tout ça, c'est lamentable. Ben oui, mais quand même. Alors, c'est pas un progrès moral considérable, mais moi, je revois encore des vieilles femmes qui, en plein hiver, dans un lavoir, à battre leur linge. Bon, on peut dire que c'était merveilleux, c'était le sens du travail. Oui, bon, enfin, c'est plus comme ça. De toute façon, il n'y a pas la peine de gémir. C'est plus comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, là? On continue à discuter comme vous voulez. Vous voulez faire une petite pause? Bon, allez, 5 minutes. Mais pas trop long, hein, n'allez pas. Parce que je vais être arbitraire et imposer. Alors, vous trouvez au fond de la salle ce que j'appelle la reprise synthétique, donc qui fait parcourir un peu l'ensemble de ce que nous avons vu. Bon, j'ai presque honte de passer si peu de temps pour aborder cette immense question du rapport entre religion et politique. Bon, je vais faire simplement quelques remarques. D'abord, une concernant la réflexion que nous avons menée pendant ce cours. On s'aperçoit combien il est presque impossible de développer une réflexion de philosophie politique sans rencontrer la religion, et notamment la religion chrétienne. Par exemple, l'idée de souveraineté, du moins pour Bodin, mais on pourrait le trouver chez Hobbes pour d'autres raisons, elle vient clairement, il le dit, de l'Ancien Testament et de l'idée d'un Dieu tout-puissant. Et il constate que les Grecs n'avaient pas une telle idée parce qu'ils n'avaient pas effectivement la révélation du Dieu de Moïse. Bon, alors je crois que de ce point de vue-là, il est très difficile, je crois même impossible, de faire un cours de philosophie politique qui soit vraiment philosophique, en passant à profits et pertes la référence chrétienne, parce qu'elle joue tellement et sur ce domaine comme dans d'autres. Mais en même temps, et c'est le paradoxe, il est clair aussi que la philosophie politique moderne s'est développée contre le christianisme. Alors, on n'a pas beaucoup insisté sur la pensée de Hobbes, mais en gros, la pensée de Hobbes, qui va marquer très foncièrement la philosophie politique moderne, est un retournement de l'augustinisme politique. C'est-à-dire qu'en gros, la pensée de saint Augustin, c'est de dire que seule la paix divine, seule la paix que véhicule l'Église est la véritable paix, et que les paix terrestres ne sont que des paix transitoires, fragiles, etc. Bon, la critique de Hobbes est, disons, la critique dans laquelle la philosophie politique moderne va s'engouffrer, à partir des guerres de religion, c'est de dire on ne peut plus tenir cette hypothèse, puisque la paix des églises divise les gens, guerre de religion. La paix divine, quand on y recourt, elle suscite la violence. Donc, tout à l'inverse de saint Augustin, il faut dire que c'est au contraire la paix civile, c'est-à-dire l'État, qui va assurer le minimum de coexistence pacifique entre les citoyens. Et donc, on voit très bien, et ça me conduit à l'idée de laïcité, que la philosophie politique moderne, au moins dans la ligne de Hobbes, ne peut pas ne pas s'expliquer avec le christianisme, bien entendu, mais en même temps a une relation critique à l'égard au moins de la version augustinienne, selon laquelle seule l'Église apporte la véritable paix et les paix des États sont des paix transitoires. On pourrait dire que nous vivons au contraire sur l'inverse, c'est l'État qui assure la paix, qui cherche à l'assurer, qui cherche à justement développer un droit tel que les citoyens ont entre eux des relations justes et pacifiques, et qu'il faut plutôt se méfier des religions. Il faut quand même plutôt se méfier des religions. Alors ça me conduit à dire quelques mots sur l'idée de laïcité, qui est évidemment dans une version, je dirais peut-être un mot typiquement française, mais qui, avec des formules diverses, se trouve dans tous les pays démocratiques dans lesquels le christianisme n'est plus religion d'État, dans lesquels, même dans le cas d'Angleterre, où il y a une religion officielle, il y a une distinction forte, et évidemment de racines chrétiennes, entre l'État et les Églises. Donc c'est des formes de laïcité, on connaît en France une certaine forme un peu étroite, je vais en dire un mot tout à l'heure, mais de toute façon, même si le mot paraît intraduisible, et il l'est souvent en anglais ou en allemand, la réalité même d'une distinction entre la sphère politique et la sphère religieuse, je crois, est partout présente. Alors je veux dire deux ou trois choses. D'abord, un premier point sur ce qu'implique l'idée de laïcité. Je dirais qu'elle implique au moins trois aspects. Deux aspects, disons d'abord. Elle vise à ouvrir un espace politique qui permet la pluralité des citoyens, qui promet justement la pluralité des idéologies et des religions, sous la protection et la garantie de la loi. Donc la loi est la même pour tous, et la loi garantit à chacun et au groupe de professer la religion qu'il souhaite ou de ne pas professer de religion du tout. Donc l'idée de laïcité, c'est quand même cette idée d'ouverture d'un espace public de coexistence aussi pacifique que possible entre les citoyens sous le règne de la loi. Bon, on trouve ce qu'on a dit à propos de la souveraineté. Mais il y a une deuxième idée, je crois, tout à fait centrale et transversale à toutes les formes concrètes historiques de laïcité, c'est le refus d'imposer une religion, et j'ajouterais d'imposer une idéologie officielle au nom de l'État. Donc c'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir de religion d'État, que l'État, on rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, le droit étatique ne peut pas imposer une confession religieuse aux citoyens. J'ajoute aussi idéologie officielle. Je suis prêt à dire que les régimes communistes étaient au fond des régimes de religion d'État, c'est-à-dire que le marxisme-léninisme imposait une idéologie qui passait à travers l'éducation, à travers l'art, à travers le droit, évidemment. C'est-à-dire que on ne vivait pas une séparation entre la sphère proprement religieuse ou idéologique et la sphère d'État. Bon, laissons de côté les morts, laissons les morts enterrer leurs morts. Bon, l'idée, c'est que donc l'État ne peut pas favoriser une religion, mais il ne peut pas non plus ne peut pas imposer une religion, mais il ne peut pas non plus en favoriser une en particulier. Une plutôt qu'une autre. Au fond, l'idée, je crois, assez forte de la philosophie moderne, c'est qu'il n'y a pas d'inféodation de l'État à une religion en tant que telle. Pas d'inféodation d'une religion. Donc, ça veut dire que l'État, au fond, est agnostique. Il ne peut pas se prononcer sur les finalités ultimes concernant l'homme. Il ne sait pas ce qu'il en est du salut de l'homme et il s'abstient de se prononcer. Alors là aussi, on est sur la corde raide. S'abstenir de se prononcer, ça ne veut évidemment pas dire qu'il juge indifférent que les citoyens aient une religion. Ça veut dire encore moins, évidemment, qu'il lutterait contre les religions, ce qui est le glissement de laïcité vers le laïcisme. Ça veut dire que, pour parler comme le juriste Rivero, il y a une neutralité religieuse de l'État. Bon, c'est chez nous la loi à peu près de 1905, on favorise et on ne lutte contre aucun culte. Bon, alors on pourrait dire, mais la Grande-Bretagne a une religion établie, mais cette religion établie qui donne des avantages en effet aux Anglicans, en particulier, je crois qu'il y a 26 évêques qui sont à la Chambre des Lords, ce qui est évidemment tout à fait aberrant. Enfin, l'État anglais n'impose pas l'anglicanisme à tout le monde. Pour des raisons historiques, il est lié à l'anglicanisme. Le prince doit être anglican, prince ou la princesse, la reine. mais il n'impose pas de religion. Donc on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est un schéma de laïcité qui peut nous étonner, puisque l'église gallicane a quand même des privilèges que les autres églises n'ont pas, et ne veulent pas avoir, parce que je crois qu'il y a quelques années, le gouvernement britannique avait demandé aux évêques catholiques si certains d'entre eux pourraient rentrer à la Chambre des Lords, et grâce au ciel, la hiérarchie catholique a répondu non. Bon, alors j'ai laissé les deux grandes idées, me semble-t-il, c'est que ouverture d'un espace de pluralité et non-inféodation de l'État à une religion particulière. Bon, alors, quelle est la troisième point, la signification finalement, ou les conséquences de ces grandes idées, que je fais qu'énumérer parce qu'elles sont bien connues. Alors, je crois qu'une chose qui est souvent difficile à entendre, c'est que l'idée que l'État ne fasse pas de profession religieuse, ne se dise pas musulman ou catholique ou protestant, ne signifie pas que là où les religions soient absentes ou exclues de la société civile. Et je crois qu'on gagne, quand on pense au problème de laïcité, à ne pas penser simplement dans un rapport duel entre les églises et l'État, mais penser dans une trilogie État, société civile, religion. Les religions sont présentes dans la société civile. Et donc, là, je prends position, sans le dire trop lourdement, contre certains philosophes qui ne voient pas que la laïcité est liée à une philosophie politique et non pas à une anthropologie ou une philosophie sociale qui viserait à l'élimination des religions. L'État, encore une fois, c'est logique, ce que je disais tout à l'heure sur le droit, n'a pas à lutter contre les religions, il a à prendre le fait qu'elles existent. Bon, et il n'a pas à lutter contre elle, sinon il devient laïciste, il devient hostile aux religions, et je dirais il sort de ce que l'on est en droit d'attendre de lui. D'où ma deuxième remarque, c'est que si un État conscient de lui-même reconnaît la place des religions dans la société civile, et en particulier, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure à propos de l'éducation, si l'État laïque admet que les églises rendent des services à la société, que lui ne peut pas rendre ou ne souhaite pas rendre ou qu'il estime mieux rendu par les églises, il n'y a pas de raison que l'État laïque n'aide pas les églises dans ses services. C'est d'ailleurs ce qu'il fait déjà depuis très longtemps, concernant par exemple les mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse communistes, catholiques, laïcs, reçoivent des subsides, qui ne sont pas minces d'ailleurs, de la part de l'État républicain. Parce que l'État laïque estime que les églises sont pas mal placées pour former des jeunes, faire des camps, faire des engagements divers, les aider à grandir comme adultes, à former des citoyens, et qu'il vaut mieux que ce soit les églises qu'ils fassent, c'est-à-dire des sociétés finalement de choix, que l'État qui embrigade la jeunesse dans des systèmes étatiques. Bon, je veux dire, ça se comprend assez bien. Alors, c'est une idée que feu René Raymond, avait beaucoup développé dans plusieurs articles, notamment dans la revue Études, avec beaucoup de bon sens. Et cette idée, elle a été à la source, disons, des lois finançant l'école privée catholique. Alors, ça va contre l'idée, la formule, à mon avis, tout à fait équivoque, à fonds privés, argent privé, à fonds publics, argent public, qui supposerait qu'il ne peut pas y avoir de financement d'une école privée. C'est évidemment un sophisme, parce que si les églises ont des écoles que l'État ne souhaite pas assumer, ou qui ont, dans le paysage éducatif, une singularité, il n'y a pas de raison que l'État abdique finalement ses responsabilités et ne finance pas d'une manière ou d'une autre ses écoles. Évidemment avec la contrepartie de les contrôler, de voir qu'est-ce qu'on raconte là-dedans, et de savoir effectivement si les programmes sont à peu près corrects ou si on infuse aux enfants des idées farfelues et qui seraient contraires évidemment à l'ordre républicain, à l'ordre public, etc. Et je crois que là-dessus, malheureusement, beaucoup de laïcs ne comprennent pas cette affaire. Bon, alors, troisième remarque, c'est que si l'État républicain a tendance à se méfiaient des églises, comme je disais tout à l'heure, pour des raisons historiques, surtout en France. Je crois que le mot de séparation est un mot inadéquat, parce que, de toute façon, il y a de multiples relations. Et l'État, si laïque soit-il, ne peut pas ignorer, à moins d'être aveugle, l'existence des églises et de ce qu'elles font. D'ailleurs, la loi de 1905 ne parle pas directement de séparation, et elle prévoit même que l'État lui-même finance un certain nombre d'institutions religieuses parce qu'il estime qu'il est dans la cohérence du bien public d'avoir des aumôniers militaires, d'avoir des aumôniers dans les lycées internats, d'en avoir aussi dans les hôpitaux, parce qu'on voit bien, c'est une façon d'aider les citoyens dans des situations difficiles, l'armée, les lycéens dans un internat, les malades et les mourants. C'est pas à l'État d'aider les gens à mourir. Mais des aumôniers peuvent être utiles. Donc la République, tout en disant « non, je me méfie des religions », par la main droite, elle s'en méfie, mais par la main gauche, elle finance, elle paye des aumôniers. Et aujourd'hui, on est en train de chercher à voir comment on pourrait mettre des imams, dans les hôpitaux. Donc il y a une prise en charge de la vie et de la survie d'une société à travers... voilà. Donc ça veut dire que l'État républicain a des relations avec lui, sans parler, évidemment, ce qui est une chose qui va certainement changer un jour ou l'autre, mais que le calendrier républicain est calqué, pour le moment du moins, sur le calendrier catholique. Nous avons fêté le Pâques, y compris le lundi de Pâques férié. N'est-ce pas? Bon. Et quand on a voulu supprimer, je crois que c'était le bon monsieur Raffarin, le lundi de Pentecôte, enfin supprimer, dire on pourrait... qu'est-ce qui est monté au créneau? C'est pas tant les évêques que la CGT. N'est-ce pas? Alors si on disait on va supprimer Noël et mettre à la place... une fête juive, etc., c'est sans doute la CGT qui défilerait aux Champs-Élysées. Bon, je plaisante en disant ça, mais vous voyez, c'est-à-dire que c'est devenu dans les morts, selon pourra éménager. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation, puisque l'État républicain lui-même reconnaît, comme il reconnaît éventuellement le sabbat ou des régimes alimentaires dans les casernes ou dans les hôpitaux, etc. Donc, ça veut dire aussi que, par exemple, au niveau des relations internationales, la République a une ambassade près de Saint-Siège, et que le Saint-Siège a une nonciature à Paris. Non seulement ce n'est pas la séparation, mais le nonce apostolique est le doyen des ambassadeurs. Parce que la France est la fille aînée de l'Église, parce que... N'est-ce pas? Bon. De même mesure pour comment il s'appelait déjà, Roncalli, le futur Jean XXIII, a été nommé nonce. Je crois que c'est De Gaulle qui l'avait nommé. Il a fallu envoyer l'avion de la République le chercher à Ankara où il était nonce apostolique pour qu'il vienne tout de suite recevoir les vœux. Ah oui, c'est ça, c'était pour le 1er janvier. Les vœux du président de la République, qu'il les donne au nom du corps diplomatique. Donc ça veut dire qu'on dit séparation, mais en fait, voilà. Donc c'est un peu une tartufferie que de parler de séparation. Alors le problème évidemment qui se pose, c'est évidemment le problème d'un nouveau type de religion, à savoir l'islam, et on voit bien que là à nouveau, l'État ne peut pas ignorer l'existence de l'islam. Il ne peut pas ignorer qu'il n'y a pas de mosquée pour les gens, quand ils prient dans les cours ou dans des caves, etc. Donc c'est un gros problème, mais comme on ne peut pas financer, alors on trouve des formules, à mon avis, assez injuste et maladroite. Autant reconnaître qu'il y a des musulmans, qu'il est légitime qu'ils aient droit au culte, après tout, les droits de l'homme, c'est aussi le droit de religion, et que d'une certaine façon, la République les aide. Alors, sous quelle forme Bon, il ne faut pas non plus que les deniers de l'État passent dans la construction de mosquées. Mais, bon, ceci posé. Alors, je dirais, quatrième remarque, la laïcité signifie aussi que l'État laïque doit se refuser à intervenir dans la vie des églises. Alors, autant les églises, en effet, n'ont pas à se substituer au pouvoir politique, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'aient pas à intervenir au niveau de l'alerte des consciences, ce qu'elles font, Mais ça veut dire, et c'est quand même une libération dont les catholiques au départ ne voyaient pas les enjeux, mais qu'ils apprécient beaucoup aujourd'hui, me semble-t-il, et du moins je l'espère, c'est que l'État laïque n'a pas à intervenir dans la vie des églises, dans leur organisation. Il n'a pas à dicter aux évêques la politique qu'ils doivent mener. Je note d'ailleurs que la constitution civile du clergé en 1891 allait dans ce sens, malheureusement. C'est le pape qui a dit, mais dites donc, en quoi une assemblée parlementaire a le droit de changer les diocèses, d'élire des évêques, etc. Fichez-nous la paix, c'est à nous de nous auto-organiser. Et je pense que c'est très libérateur pour les églises. Ça n'est pas au pouvoir public, évidemment, d'interférer dans la vie des églises. C'est les évêques, c'est les fidèles qui ont à prendre en main leur propre culte et de la désignation de leurs responsables. Et évidemment, l'État encore moins intervenir dans les systèmes de croyance. Sauf si, évidemment, on vient prêcher le meurtre, l'assassinat, le liberticide. Mais normalement, l'État n'a rien à dire là-dessus, et je crois que c'est très très important. Alors, ce qu'il y a simplement, c'est qu'on voit dans la République un agrément des futurs évêques, sauf, je laisse de côté le cas de l'Alsace-Lorraine, qui est un cas particulier, où l'histoire est évidemment très forte, mais c'est un peu une sorte de courtoisie. Le ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, avalise en général, mais pas toujours, ça s'est fait une fois ou l'autre, où Giscard d'Estaing en particulier, de Gaulle, avait refusé à ce pauvre monseigneur Mazillet le siège de, je sais plus trop où, de Calais, et le brave homme s'est retrouvé à Bordeaux parce qu'il avait soutenu la grève des mineurs à Saint-Étienne en 63. De même, dit-on, Giscard d'Estaing aurait refusé l'archevêché de Paris, un cardinal encore vivant, que je ne nommerai donc pas puisqu'il est vivant, parce qu'il avait critiqué les casinos et maisons de jeu d'une certaine région de France où il était évêque. Bon, donc ça existe, mais c'est quand même plutôt rare. Et ça pose évidemment le problème du rapport de l'État aux sectes. Est-ce que l'État peut laisser se développer? Bon, mais en même temps, il est en principe neutre. Et nous savons la polémique. Les États-Unis font sans cesse critique de la France parce qu'on estime que nous avons un système de contraintes religieuses qui est contraire à la liberté religieuse, etc. Et donc fait des attaques régulières contre l'État français. Voilà. Alors, j'ajouterai encore, pour qu'on ait quand même un petit peu de temps, que ça, c'est les purs, mais que, évidemment, une laïcité ne peut se comprendre concrètement que dans une histoire. Et l'histoire pèse évidemment lourd. L'histoire des États-Unis implique une séparation de l'église, des églises et de l'État qui n'est pas la situation de l'Espagne ou de la France. Donc on a des formes historiques à respecter. Madison, un des premiers penseurs de la République, disait l'État républicain, l'État des États-Unis a tout intérêt à avoir le plus de religions possible. Parce que s'il y a une multiplicité de religions, il n'y en a aucune qui pourra s'imposer au pouvoir politique. On voit très bien la tendance, n'est-ce pas? Alors en France, c'est évidemment l'inverse, c'est-à-dire que on a eu toujours ce face-à-face terrible, enfin terrible, il n'a pas toujours été terrible, enfin entre l'État républicain et l'Église catholique. Et ça, ça pèse toujours, même si aujourd'hui il y a évidemment des protestants, des juifs, des musulmans. Voilà. Alors, nous avons, nous, en France, une laïcité qui est marquée à ce coin de l'histoire. Et en particulier, alors j'ai parlé tout à l'heure gentiment de l'école privée, mais il est évident que la République, à travers Condorcet et d'autres, s'est donné une tâche d'émancipation de la jeunesse à l'égard de l'Église. Et on voit renaître sans arrêt l'idée qu'il est du rôle de l'État républicain d'arracher la jeunesse au déterminisme de la famille et de la religion. Cette formule, je ne l'invente pas, elle a été prononcée il y a quelques semaines par le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Vincent Peillon, et par la gardienne des Sceaux, Madame Christiane Taubira. Vous voyez, arracher l'enfant au déterminisme de la famille et de la religion. Alors, c'est un slogan qu'on continue à dire. Il devait valoir, me semble-t-il, pour le petit Breton à la fin du XIXe siècle, qui était peut-être étouffé par le curé ou le doyen, le recteur et la famille, mais on pourrait dire le Savoyard aussi, Aujourd'hui, le gamin des banlieues qui est totalement déraciné, si le but de l'école, c'est de le déraciner encore plus, il ne faut pas s'étonner qu'on court à la catastrophe. Mais apparemment, voilà, c'est le slogan, déraciner, arracher l'enfant au déterminisme. Où est le déterminisme des religions aujourd'hui? Peut-être, alors pour, ça peut être alors pour certains jeunes musulmans, peut-être certaines familles catho-intégristes. Ou, bon. Alors, je termine là-dessus, je trouve que cette situation, elle est bénéfique à l'État, elle est bénéfique aux églises. Elle est bénéfique à l'État parce que, justement, elle le circonscrit dans ses tâches. C'est pas à lui de s'occuper du bien des âmes. C'est pas à lui de s'occuper des finalités ultimes. C'est pas à lui de s'occuper, je m'excuse d'enfoncer le clou, de la morale et de l'imposer à qui que ce soit. Il a assez de boulot à faire dans la gestion juste et heureuse du bien commun et de la vie commune. Mais d'autre part, c'est une grande libération pour les églises. Alors je crois que les catholiques en France en ont conscience, c'est une libération qu'il faut payer, il faut payer le prix, ils sont pauvres, pour ne pas dire misérables. Mais c'est la grande formule de Montalembert, une église libre dans un état libre. Donc l'église s'organise comme elle l'entend, elle a la liberté de parole, elle peut et elle doit parler, elle ne doit pas se laisser impressionner par les laïcistes qui veulent la ranger à la sacristie. Elle doit parler à la conscience commune. Ne serait-ce que par cette conscience commune, qu'on le veuille ou non, elle est marquée par des traditions d'origine chrétienne, je rejoins ce que j'ai dit en commençant. Mais l'Église est libre de parler comme elle l'entend. Elle n'a pas demandé avant la permission au ministre des cultes, au ministre de l'Intérieur pour parler. Les évêques parlent s'ils estiment bon de parler, ou ils se taisent, ou les laïcs, de même, le médecin catholique pourrait, devrait parler, et s'ils parlent, ils n'ont pas demandé la permission au ministre de la Santé. Église libre dans un état libre. Et je dirais que la laïcité empêche les tentations des églises de s'emparer de la société. De même que la laïcité empêche l'État d'intervenir dans le domaine religieux ou moral, de même à l'inverse, elle libère l'église de la tentation du pouvoir temporel. Bon, qui n'est pas une tentation aujourd'hui tellement fascinante, je crois, pour nos pauvres églises, mais qui est toujours un peu à l'horizon. Voilà, je voulais au moins dire ces quelques mots qui appellent certainement bien des discussions, puisque c'est très rapide et très schématique. Donc nous avons encore un petit peu de temps. Oui. Montalembert, qui était un grand parlementaire catholique du milieu du XVIIIe siècle, et qui est très important à cet égard, qui est un homme assez courageux, parce que c'était l'époque encore où l'Église était religion d'État, etc. Et lui, ça, trouvait ça tout à fait malsain. C'est un grand... Oui. Oui. Bien sûr. Oui. Est-ce, pardon? Oui. Oui. Bon, c'est une des idées d'Habermas, d'ailleurs très intéressante, hein, qu'on risque de faire des chrétiens des apatrides, je ne sais pas comment il appelle ça, des sous-citoyens. Bon, moi je dirais d'abord, c'est tout un sujet difficile. Un, les églises ont le droit et le devoir de parler. Au même titre que les paysans, ACT UP, ils ont, pourquoi pas. Et j'allais même dire, à la limite, un peu comme ils font aux États-Unis, mais il ne faut pas trop les imiter là-dessus, de faire du lobbyisme. Elle a le droit de parler, elle a le devoir de le faire. Alors, tout le problème, c'est comment. Ça, c'est pas facile du tout. Alors, on voit bien, je m'excuse de revenir là-dessus, sur l'affaire du... Quand l'Église a pris parti sur l'affaire du mariage pour tous, elle a tenu un langage non directement religieux. Ça lui a été reproché. Mais je crois qu'elle avait raison. Parce qu'on voit bien que derrière le discours d'anthropologie... Il y a quand même toute une vision chrétienne de l'homme, de la femme, de la sexualité, de la famille, de l'enfant, etc. Mais dans une société pluraliste qui n'a plus un langage religieux, ou qui comprend de travers le langage religieux, ou qui ne le comprend pas du tout, je trouve qu'il est parfaitement légitime que l'Église essaie de parler un langage de raison. D'ailleurs, c'est la grande tradition catholique. La grande tradition catholique, lisez les doctrines sociales de l'Église, c'est de dire tout ce qui relève de la foi en matière morale doit pouvoir être dit sur le terrain de la raison. Et là, Jean-Paul II, comme Benoît XVI, était entièrement sur cette ligne. Parce que la lumière de l'Évangile est une lumière pour tout homme. Donc si elle est lumière pour tout homme, c'est pas pour les happy few. C'est pas pour les prédestinés, c'est pour tout homme. Alors voilà le rôle des chrétiens, de l'Église, entendons, de la communauté des chrétiens, c'est comment faire passer le message de salut, de bonne nouvelle, dans le langage des hommes. C'est l'incarnation. Pas commode. Alors ça suppose de la mobilisation de l'intelligence chrétienne, de tous. Pas seulement du pape et des évêques. Nous avons tendance aujourd'hui à croire que l'Église, c'est le pape et les évêques. Bien sûr que c'est le pape et les évêques. Mais moi, je suis quand même un peu surpris et affligé du silence des fidèles catholiques, ce qui n'existait pas jadis. Je n'ai pas de nostalgie du passé, mais jadis, vous savez, quand même des médecins catholiques qui prenaient la parole, ça ne plaisait pas toujours aux évêques, des ingénieurs catholiques qui parlaient, etc. Ça montrait une Église vivante. Aujourd'hui, on attend que ce soit 23 qui parlent. Bon, c'est très bien, ce qu'il a dit, pas idiot. Mais c'est à tout le monde de se mobiliser, parce qu'on est des citoyens comme les autres. Ben, si on a des choses à dire, qu'on les dise. Alors, moi, je crois en effet que l'Église a raison de chercher un langage qui sera toujours difficile, mais qui soit le langage de la raison commune. Moi, je ne vois aucun inconvénient, je pense que c'est dans la logique de l'incarnation. Ceci dit, si on prend ce langage commun, mais même sans ça, il faut accepter d'être critiqué. Il ne faut pas que l'Église attende qu'on se mette à genoux devant son message. Parce qu'on est dans une société démocratique. Donc ça veut dire que c'est une société du débat. Donc il faut accepter que, voilà, on rende compte de ce qu'on a à dire, qu'il y a des gens qui trouvent que ce qu'on dit, ça colle pas. Et après tout, ça peut être un éducateur pour l'Église elle-même. C'est-à-dire, j'ai été maladroite, j'ai pas dit les choses comme il fallait, il faut revoir les choses. Et donc elle peut bénéficier du débat, mais il faut s'attendre à la critique. Donc il faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui soient contre. Mais il faut pas se taire pour autant. Mais ça, je suis bien d'accord avec toi, hein, c'est très très difficile de trouver un langage correct. Ah, d'abord, en plus, je dirais, il n'y a pas que le langage de l'Église, il y a ce qu'elle fait. Vous voyez, le malheur de l'histoire du préservatif, quand Benoît XVI est allé en Afrique, et que dans l'avion, il a eu des propos malheureux sur le préservatif, il a oublié de dire que c'est quand même l'Église catholique qui, dans ses institutions en Afrique, aide le plus les malades du sida. Vous voyez, il y a ce qu'elle fait sur le terrain. Et ça compte beaucoup plus que les discours. Elle aide concrètement les malades de sida. Non seulement elle ne dit pas, bon, allez, vous êtes communis, mais elle les aide. Les religieux, les religieuses, les bonnes sœurs, les laïcs, les médecins, les bénévoles. Et ça aussi, c'est le discours de l'Église. L'abbé Pierre, il n'a pas fait tellement de discours. Il a dit, écoutez, il faut donner un toit à ceux qui n'en ont pas. Point. Ça aussi, c'est un discours. Bon, je m'excuse de... Mais je crois que c'est très important, ce que l'Église fait ou ne fait pas. Si on me dit le préservatif, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait pour les malades du sida? Elle fait des choses. Oui, oui, vas-y. Non. Mais on ne demande pas... Non, on ne demande pas de cacher la source. Simplement, ce qu'il faut du point de vue des Églises, c'est quand même chercher à être entendu. Alors, si tu parles tout de suite de la Sainte Trinité qui te motive, les gens vont dire, bon, d'accord, écoute, parle d'autre chose, tu vois, c'est ça le problème. C'est pas qu'il faut cacher ce qu'on a à dire, c'est qu'il faut... Mais moi, je suis frappé, quand tu regardes l'Évangile, est-ce que Jésus parle tellement de la Trinité, du Saint-Esprit? Il vous parle de la... du grain qui pousse, de l'arbre qui fleurit, du vigneron qui a des ennuis avec ses intendants, n'est-ce pas? Je vous parle des choses de la terre pour que vous compreniez les choses du ciel. Mais les choses de la terre vous parlent du ciel. Le grain qui pousse, c'est le royaume de Dieu, etc. La femme qui a perdu sa monnaie. C'est quand même frappant dans l'Évangile. Il ne fait pas un discours métaphysique sur l'essence divine. Au moins, je n'ai pas bien vu, je ne le vois pas. Pas non plus le discours trinitaire qui a sa légitimité par ailleurs. Mais il parle des choses de la terre. Que les gens ne comprennent pas d'ailleurs. Mais, mal. Mais il parle des choses du ciel à travers les choses de la terre. Ben, c'est un peu ce que l'Église devrait faire. Alors, comme on est dans des sociétés hautement technicisées, quand on parle d'économie, comme tu disais, il faut évidemment que ce qu'on dise tienne la route. Parce que si on parle simplement avec son cœur, les bons sentiments, les gens diront, c'est très gentil, mais... qu'il faut qu'il y ait des économistes qui parlent, si possible en s'inspirant de la foi chrétienne, mais je crois que personne ne demande de cacher. Alors on dit, quand l'Église parle ce discours-là, elle cache, elle a honte. C'est pas vrai. Elle n'a pas honte de ce qu'elle dit. Simplement, si tu envoies la Trinité Sainte sur la tête des gens aujourd'hui, ils vont dire, écoutez, c'est bien dans vos églises, mais nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est peut-être dommage, mais c'est... Et je crois qu'ils ont raison. Bon, une dernière question, on arrête ou... Voilà, merci beaucoup de votre présence et de votre attention.